Et je vais vous parler aussi d'un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle « Un 22 juillet ».
Bienvenue à tous. Nous commencerons avec un exercice. Si jamais j'étais premier ministre. Villiard, tu commences?
Oui, si vous voulez. OK. Là d'où je viens, tout le monde est le bienvenu, quelles que soient ses origines ou sa nationalité. Et si j'étais élu premier ministre, c'est la première chose que je défendrais.
C'est un film coup de poing qui est présenté depuis cette semaine, qui parle de cette tuerie qui s'est déroulée en Norvège le 22 juillet 2011. Donc cette journée-là, Anders Behring Breivik, qui était un terroriste d'extrême droite, a posé une bombe à Oslo. Premièrement, ça a fait une explosion terrible, 8 morts, 15 blessés. Et par la suite, il s'est rendu sur l'île d'Utøya, où était réuni un paquet de jeunes d'une organisation politique. Et il s'est fait passer pour un policier. Et lorsqu'on lui a donné l'accès pour se rendre sur l'île, il a ouvert le feu et il a tué 77 personnes, en a blessé 33. Donc, c'est le film qui raconte ces événements-là. On peut faire ici un parallèle avec ce qui est arrivé à Polytechnique. Ça a touché vraiment beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de familles. Ce film-là est réalisé par Paul Greengrass, qui raconte, oui, la tuerie, mais qui raconte aussi ce qui s'est passé après. Comment s'en remet?
Le procès.
Comment ça s'est passé aussi sur le plan politique?
Et le tueur est passé d'un à l'autre. Donc, il a fait sauter la bombe. Après ça, c'est rendu.
Oui.
Et pendant que tout le monde était occupé à Oslo, donc le corps policier, ben lui en a profité, il a voulu plaider ou en tout cas qui faisait la sécurité. Ouais. Donc on l'a embarqué sur le bateau, on l'a amené sur l'île et là est arrivé cette boucherie. Je vous invite à voir le film, c'est vraiment troublant, c'est vraiment un film.
J'ai vu la bande-annonce et je me questionnais sur écoute, mon intérêt pour le regarder n'était pas là parce que je me souviens du drame lorsque c'est arrivé, puis surtout qu'il y avait une multitude de jeunes qui étaient rassemblés sur l'île, comme tu le mentionnes, et qui, lui, est arrivé et a liquidé une multitude de jeunes. Puis je me disais, est-ce que j'ai le goût de voir ça? T'sais, est-ce que j'ai le goût de revivre cet événement-là qui, pour moi, était complètement gratuit et inutile? Puis la réponse était non. Puis le film est passé, j'ai écouté la bande-annonce à plusieurs reprises, puis à chaque fois je me questionne, j'ai-tu vraiment le goût de voir ça?
Mais moi, je te dis que ça vaut la peine de le voir parce que c'est qu'une partie, évidemment, l'acte, le geste, mais c'est aussi de voir la montée de la pensée d'extrême droite. On est dans un climat politique présentement où on parle de la droite, on parle d'immigration, de tolérance. Et c'était son motif à lui, c'était d'éliminer l'islam. Et puis moi, je pense que ne serait-ce que pour ça, pour avoir une ouverture d'esprit, pour voir comment quelqu'un peut être craqué pour des mauvais motifs, faire un acte comme ça. Puis ce sont des gens qui ont l'âge de ton fils et de ma fille. Et donc, évidemment, il y a transposition. Mais c'est de voir comment ces gens-là sont résilients, ont réussi à surmonter la côte. Et la partie du procès, elle est quand même très, très intéressante.
Anders Behring Breivik s'est présenté au tribunal et on a tenté de le faire passer pour quelqu'un qui était fou.
Hein.
Et lui, il a toujours rejeté ça. Il a voulu être jugé pour les crimes qu'il avait commis en disant « Je ne suis pas fou ». Il s'est présenté, il a fait un salut hitlérien là, quand il s'est présenté là-bas. Veux-tu que je vous raconte une anecdote personnelle? J'ai visité le musée de ça à Oslo, en Norvège. Je me suis retrouvé où le lieu de l'explosion, dans la capitale, a eu lieu. Ce sont les bureaux gouvernementaux qui sont là. Je vais juste vous raconter un peu l'ambiance autour de ça, puisque les Norvégiens ont pas cette pudeur envers, la pudeur qu'on garderait probablement sur ici. Puis si on compare avec les événements du 11 septembre, là, je vois quelque chose qui est très, très différent dans le traitement de la chose. Quand tu visites le mémorial, de un, tu as les images de l'explosion carrément là, qui souffle le cœur des bureaux gouvernementaux. Là. Tout ça a été capté par des caméras de surveillance et c'est présenté dans l'exposition. Et en aucun moment, on cache l'identité de Breivik comme étant celui qui a perpétré l'attentat. Et même tout le procès, tout ça est véhiculé au cœur de l'exposition. On a même les pièces d'identité que Breivik avait créées, toutes pièces au sein même de l'exposition, pour démontrer comment il s'y était pris. Tu as raison de le dire. C'était une diversion ce qu'il a fait dans le cœur d'Oslo. Et c'était justement, il s'est présenté au traversier, il a dit, je suis policier. Puis il y avait tout le costume, là.
Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il y a dans les valises. Il a dit, j'ai des armes.
Ben oui, parce qu'il est arrivé quelque chose à Oslo, puis il faut que j'aille protéger les gens qui sont là pour le meeting politique. Il se présente là-bas et il a fait son carnage. Et ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils réagissent et que des gens sur l'île réagissent à savoir ce qui se passait. Les gens se sont pitchés à l'eau carrément pour essayer. Et lui, là, tirait à vue sur ce qu'il voyait. T'as des gens qui essayaient de se sauver. Puis là, t'es pas si loin que ça de la côte, là. Mais t'es quand même sur une île. T'as des gens qui tentaient de nager pour aller regagner l'île, pour se sauver des balles, et lui tirait à vue sur des gens qui étaient à l'eau. Il y a des gens qu'on n'a jamais... Ça a pris du temps avant de retrouver les corps, là. Mais c'est la façon dont on a traité, et on le traite là-bas. Il n'y a pas cette pudeur autour,
ça,
autour
du...
Ça, on ne ferait jamais ça avec Marc Lépine.
Non, absolument
mais
pas.
Je dois vous dire qu'il y a un autre film sur la même tragédie qui va sortir en décembre avec un point de vue complètement différent. Là, c'était vraiment global. L'autre, ça va être un plan séquence de 90 minutes où on évacue presque au complet le tueur parce que c'est un point de vue de victime. Donc, on le voit à peu près une fraction de seconde dans le film. J'ai bien hâte de voir cette autre version.
Mais excuse-moi, mais juste dire, le plan séquence au cinéma amène un niveau d'intensité qui est quasiment insupportable. Tu sais, quand t'arrives, t'es pas capable de respirer parce que t'es pris justement dans... C'est un plan continu, hein, souvent, mais je sais pas si on va vraiment le faire en plan séquence parce qu'on trouve quand même des fois...
Des façons de tricher
Des façons
cinéma,
de tricher, là, mais ça amène tellement un suspense qui est insoutenable. Là, j'imagine en plus, quand tu dois te sauver, t'imagines pendant 90 minutes, tu dois tenter de te sauver en plan séquence. Ça m'intéresse.
Plus que celui-là?
Oui.
Mais en tout cas, je vous dis, c'est fascinant cette histoire-là. Puis même, sais-tu, je vais juste conclure l'histoire de l'exposition, là. Savez-vous pourquoi on l'explique, pourquoi on ne tait pas le... On va parler du procès, on va parler du celui qui a perpétré l'attentat. Et on dit justement, il y avait une motivation, ce gars-là, puis il y avait quelque chose qui était derrière sa pensée, qui malheureusement existe de plus en plus. Et c'est et en disant, il faut en parler, parce que ça existe. Et c'est pas un cas accidentel, là. Il est pas l'erreur que la société ferait en Norvège, c'est de dire ah il est tout seul, c'est un fou. Puis il y avait une motivation qui était purement raciste et il en voulait à ce parti-là, le parti travailliste, qui selon lui était trop multiculturel.
Il a carrément déclaré je voulais faire le plus de mal possible, c'est pour ça qu'il s'est attaqué à des jeunes.
Exactement.
Ça, le film s'appelle Un 22 juillet. Si vous voulez le voir, il est présentement sur Netflix.